Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
Oui, bonjour Frédéric Vidal.
Bonjour.
Les étudiants et le Covid, Parcoursup, la recherche, le wokisme à l'université, autant de questions que nous allons aborder. Avant ça, l'appel à la grève tout de même dans l'éducation pour demain. Les syndicats annoncent une journée historique. 75% d'enseignants grévistes en primaire, annonce un syndicat. Alors, c'est du ressort, certes, de Jean-Michel Blanquer, hein, ce n'est pas vous directement. Jean-Michel Blanquer qui a d'ailleurs dit qu'on ne fait pas grève contre un virus. Mais est-ce que vous comprenez tout de même ce mouvement de colère, Frédéric Vidal ?
Oui, bien sûr, je crois que la lassitude, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire après 2 ans de Covid. Donc oui, il y a une lassitude à la fois évidemment des enseignants, des familles aussi, qui essayent de gérer au mieux. Je crois qu'on essaye tous de gérer au mieux. L'objectif, vraiment, et je crois qu'on peut en être collectivement très fiers, c'est de garder l'école ouverte, de le faire avec des protocoles sanitaires qui sont revus et mis à jour avec pragmatisme, sous la compétence du Haut Conseil de Santé Publique, hein, qui vraiment donne ses préconisations, puis ensuite on essaye de les adapter. Et puis, quand on voit qu'il y a des difficultés, ben on les change. Et voilà. L'idée, c'est vraiment d'être le plus pragmatique possible, et d'essayer de conserver ce qui est si important pour nos enfants,
oui,
l'école.
Mais comme c'est en temps réel tout ça, où on lance en fait entre guillemets des expérimentations avec autant de tests, des classes qu'on ferme ou qu'on ne ferme pas, forcément à la fois les enseignants, les directeurs d'école bien font les frais en fait de ça quoi. Et y compris aussi par ricochet les élèves et puis et les parents d'élèves.
Oui, c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde, c'est vrai que il y a encore quelques semaines, on n'imaginait pas dépasser les 350 000 contaminations par jour. Oui, c'est difficile, c'est compliqué, ça c'est très clair. On s'adapte, et le plus possible avec pragmatisme, et quand on voit que ça ne fonctionne pas, que c'est trop compliqué, eh bien on essaye d'aménager les choses, avec vraiment toujours
mais
en
il faut
tête
maintenir
cet objectif.
Oui, c'est ça, il faut maintenir l'école ouverte coûte que coûte, quoi. Est-ce que ce n'aurait pas été plus sage de reporter de quelques jours, ou d'essayer d'adapter différemment, là, parce que là, avec...
Reporté de quelques jours, je sais que ça a été proposé par certains. Ça aurait été quoi l'intérêt de reporter de quelques jours quand on regarde depuis la rentrée, on voit que jour après jour, le nombre de contaminations journalières augmente. Donc quand est-ce qu'on aurait réouvert ? Je crois que quand on écoute les spécialistes de la pédiatrie, les spécialistes de la pédagogie, on voit à quel point c'est compliqué pour les enfants de ne pas aller à l'école, pour les parents de télétravailler avec les enfants à la maison. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de préserver la formation des enfants.
Est-ce que vous croyez qu'au fond, au-delà de la crise du Covid, cette grève est aussi contre Jean-Michel Blanquer de la part des syndicats ? Il y a une action en politique derrière ?
On est dans une période qui est éminemment politique. Donc, c'est vrai que le mot d'ordre, il a été donné au départ contre le protocole sanitaire. Mais on entend aussi des syndicats qui disent que c'est plus général que ça, et effectivement, que c'est plus politique.
Donc, il y a une visée politique, oui, clairement.
On doit vraiment se serrer les coudes. Voilà, il faut... les épidémiologistes, les projections nous disent qu'on a encore 2-3 semaines difficiles à passer. Il faut tenir, il faut faire le gros dos.
Oui.
Et puis...
Vous-même,
ouais,
au gouvernement, on soutient Jean-Michel Blanquer.
Bien sûr, on est extrêmement solidaires.
Il est dans une période délicate, le ministre de l'Éducation.
On est tous passés par des période plus ou moins délicate, et je crois que c'est ce qui fait la force de ce gouvernement, c'est justement qu'on soit capable d'être solidaire, quelles que soient les circonstances.
Bon, Omicron a aussi des conséquences sur l'organisation des partiels dans les universités. Il y avait de l'appréhension sur le maintien en présentiel, notamment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contraint de reporter des épreuves ? Où en êtes-vous, précisément ?
Non, alors il faut se rappeler sur les examens qu'en fait, la question elle s'est posée pour la première fois en juin 2020.
Ouais.
Pas de vaccin, sortie de première vague, encore beaucoup de contamination, et on a été capable de mettre en place des protocoles suffisamment robustes pour qu'il n'y ait pas de cluster. Et ces protocoles, on les adapte et on les aménage au fur et à mesure, et on a beaucoup travaillé avec les établissements d'enseignement supérieur dès l'automne, puisqu'ils souhaitaient étaler justement la période des examens. Donc, il y a déjà un tiers des examens qui ont eu lieu en décembre. Ça se poursuit en ce moment, c'est vraiment le gros en ce moment. Ça s'étalera un petit peu jusqu'à la mi-février, avec un protocole qu'on a défini ensemble au mois de novembre et qui, pour le moment, tient. Et
j'espère malgré que Omicron, quoi. Là, c'est assez difficile. On avait des étudiants angoissés qui nous ont appelés il y a quelques jours en disant « Mais c'est pas possible, on s'enferme dans des classes, dans des amphis où on est trop nombreux.
Enfin, » il faut se rappeler que d'abord, on est en condition d'examen. Hein, donc, par définition, on est espacé.
Oui.
Et puis on rentre, on a son masque, on parle pas, on bouge pas, on s'assoit, on compose, on se lève, on s'en va. Donc on est dans des conditions qui permettent de garantir la sécurité. Les étudiants sont extrêmement responsables. Il faut pas oublier qu'ils sont vaccinés à plus de 95%, que la dynamique de la troisième dose chez les 18-24 ans est très forte. On sent qu'ils souhaitent, qu'ils veulent rester en présentiel.
Alors c'est ça. Où en est-on là ? Bon, il y a d'un côté, il y a eu les examens, les partiels qui ont lieu encore. Il y aura peut-être des séances de rattrapage, non, pour certains.
Il y aura des examens de substitution pour tous les Covid plus qui n'ont pas pu venir aux épreuves.
Oui,
pour
ça
les
c'est
examens.
Ça. Vous l'affirmez ce matin. Ils auront des séances de rattrapage.
Absolument.
Quoi. Oui. D'un autre côté, vous militez toujours pour le 100% présentiel.
Oui, je crois que c'est important. Alors, le 100% présentiel, il faut bien voir ce que ça veut dire. Hein.
Ouais.
Il y a des enseignements qui, de manière normale et naturelle, se font à distance. Hein. Ça existe dans l'enseignement supérieur, même hors Covid. Ce qui est important, c'est qu'on puisse maintenir une vie étudiante, une présence sur les campus, la capacité à échanger entre étudiants et entre étudiants et professeurs. Je crois que c'est ça qui a énormément manqué à tout le monde. L'année dernière, quand on avait été obligé de fermer, en début d'année 2020-2021, je crois que personne n'a envie de revivre ça.
Ouais. Où en est-on de la vaccination chez les étudiants ?
Chez les étudiants, je vous le disais, on est à plus de 95% des étudiants vaccinés. On a même des établissements...
Plus de 95%
où ils sont à 100%.
Des 18-24 ans ?
Des étudiants. Là, vraiment, c'est ce qui nous remonte. Alors, des 18-24 ans, déjà, en général, c'est une tranche d'âge qui est extrêmement vaccinée. On a des établissements qui nous disent que 100% de leurs étudiants sont vaccinés. Et sur la troisième dose, donc normalement, ils ont eu leur première au plus tôt le 12 juin, donc ils attendaient le 12 décembre. On a maintenant un délai plus court qui est possible et on voit une montée de la vaccination chez les 18-24 ans qui est très très forte.
Oui, est-ce qu'il y aura besoin du pass vaccinal pour les étudiants, pour aller à l'université ?
Non, on n'a pas mis le pass sanitaire... On ne mettra pas le pass vaccinal non plus. Je crois qu'une fois de plus, les étudiants ont montré, alors qu'au départ, on les a beaucoup montré du doigt disant qu'ils étaient à l'origine des clusters, etc. Je crois qu'ils ont montré leur très grande responsabilité. Les établissements aussi qui se sont adaptés. Et voilà, on tient tous ensemble parce que le présentiel, c'est très important.
Alors, donc, pas de pass vaccinal pour les étudiants.
Non.
Et un maintien à présentiel 100%.
Le plus possible.
Alors.
Le plus possible, évidemment.
Mais le plus possible, ça correspond à quoi ? Quel pourcentage ? Parce que là, c'est à chaque président d'université d'organiser à chaque cours.
C'est même beaucoup plus fin que ça, oui. C'est à chaque responsable de formation. Pour le moment, aucune formation n'est repassée en 100% à distance. On a épisodiquement des cours qui peuvent être faits à distance, y compris d'ailleurs parce que le professeur lui-même est positif et fait son cours depuis la maison.
Oui, Frédéric Vidal, l'une des conséquences du Covid aussi pour les étudiants, c'était la précarité hein, justement étudiante. Il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été mises en place. Est-ce qu'il y a de nouvelles aides formelles ou pas qui vont être mises en place ?
On a poursuivi ce qui fonctionnait en réalité, hein. Donc les tickets à 1 € pour l'ensemble des boursiers et tous ceux qui en ont besoin. On a maintenu le doublement des aides des CROUS, on a maintenu le dispositif d'aide psychologique pour les étudiants. Et puis on s'appuie beaucoup et on travaille vraiment en lien avec les associations étudiantes, avec les BDE. Au travers de la contribution vie étudiante, les établissements confient aux étudiants le soin de prendre soin des autres.
On sait combien d'étudiants ont pu bénéficier de l'ensemble de ces aides ? Est-ce que vous l'avez quantifié ?
Ça se compte en centaines de milliers. On a 750 000 boursiers, donc déjà tous les boursiers, et on dépasse largement le million. Il y a 2,7 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur en général, 1,6 million dans les universités, et on dépasse largement le million d'étudiants.
Alors pour les futurs étudiants, il y a Parcoursup qui démarre la semaine prochaine. Parmi les critiques, c'est l'algorithme qui déciderait de l'orientation des élèves. Quelle réponse faites-vous à ces critiques ? Est-ce qu'il y aura des ajustements et des nouveautés ?
Je crois qu'il faut tuer cette idée que c'est l'algorithme qui donne les réponses. Bah, d'abord, ce n'est vraiment pas rendre hommage aux milliers de gens qui étudient les dossiers. Le Parcoursup, c'est simplement une façon simplifiée d'avoir un lieu unique de dépôt des dossiers et un algorithme qui envoie les réponses. Mais ces réponses, elles sont élaborées par les équipes pédagogiques. Il n'y a
les
jamais eu autant d'accompagnement.
Avec l'algorithme, pas... quoi, non, non, ben c'est ce qui est dit, y compris par des gens dans l'éducation nationale, quoi.
Ben, honnêtement, pour avoir participé à la fois et observé à la fois des commissions qui regardent les dossiers et les commissions d'accompagnement pour tous ceux qui n'ont pas eu de réponse positive au moment du bac et qui continuent à être accompagnés tout l'été, je vous assure que c'était des personnes qui étaient là, qui prenaient leur téléphone, qui répondaient aux jeunes, qui les orientaient.
C'est-à-dire que ce
ne
sont pas uniquement les ordinateurs qui décident de l'orientation en fait, des élèves,
non.
Parce que c'est ce que l'on dit, quoi. Et puis il y a l'anonymat qui a été mis en place.
Je crois qu'on confond peut-être avec ce qui se passait avant, où effectivement c'était l'algorithme qui tirait au sort. Et c'est ce qu'on a supprimé.
Les candidats de gauche veulent le supprimer, quoi, votre parcours sup.
Eh bien, écoutez, c'est les mêmes qui ont mis en place APB avec du tirage au sort, donc voilà, quand ils le supprimeront, je me demande par quoi ils voudront le remplacer.
Oui.
Je crois qu'APB, aujourd'hui, il faut se rendre compte que, y compris quand on fait des sondages, et on en fait tous les ans, pour savoir ce qu'en pensent vraiment les jeunes et leurs familles, 72% d'entre eux estiment que ça les a aidés dans leur orientation, aidés dans leur choix. Voilà, après, c'est un moment stressant, toujours, quand on choisit son avenir.
Oui, un moment d'angoisse. Et il y en a beaucoup en ce moment aussi, avec la situation que nous vivons. Vous êtes également ministre de la Recherche, hein, Frédéric Vidal. On annonçait un vaccin français. Il n'est toujours pas là. Où en est-on ?
Bien, écoutez, je sais que le groupe Sanofi a un vaccin qui est en phase 3. On va avoir une nouvelle forme de vaccin fondée sur des protéines recombinantes qui va être disponible dans les prochains mois, qui vient d'être agréé par Valvena. Voilà, vous savez, un vaccin, c'est pas quelque chose qui se décide en claquant des doigts, mais je peux pas laisser dire que la recherche française dans la crise Covid, ça se résume au vaccin. On a visité avec le Premier ministre l'Institut Pasteur il y a quelques jours. On a rencontré des chercheurs qui entament leur phase 2 sur des traitements par anticorps monoclonaux. Voilà, on a énormément de recherche qui est en train d'arriver en phase clinique. Et je crois qu'il faut rendre hommage à, là encore...
Bon, hein, d'accord, mais enfin, on n'a pas eu pour l'instant de résultats efficaces, d'efficacité quand même, Frédéric Vidal. Ça,
savez,
on peut le reconnaître, quoi, non ?
Je pense que...
Heureusement que les Américains étaient là, entre guillemets, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, quoi. Mais
il y a,
bon.
D'abord, il n'y avait pas que les Américains.
Non, il y avait les Britanniques aussi, il y avait les Allemands.
Et quand vous regardez aujourd'hui les traitements, notamment par anticorps monoclonaux, qui évitent à un certain nombre de personnes de passer d'une oxygénation à une intubation... eh bien, nombre d'entre eux ont été produits par les laboratoires français.
À terme, d'ailleurs, on prendra plus des traitements que les vaccins, selon vous ?
Ben, je pense qu'il faut les deux, évidemment. La difficulté, c'est de ne pas saturer les réanimations. Donc, tout ce qui va permettre d'atténuer la force de la maladie, et évidemment, en premier lieu, le vaccin, c'est essentiel.
Oui, Frédéric Vidal, vous aviez déclenché une tempête l'année dernière en dénonçant l'islamo-gauchisme dans certaines universités. Vous aviez demandé une enquête au CNRS, d'où beaucoup de critiques. Est-ce qu'il y a eu un colloque le week-end dernier, ouvert d'ailleurs par Jean-Michel Blanquer, vous n'y étiez pas. Est-ce qu'il y a toujours ce mouvement de fond à l'université ou pas ? Ou c'est un fantasme, comme le disent d'autres ?
Non, je crois que ce que j'ai dénoncé, c'est effectivement un certain nombre d'agissements internes ou externes à l'université, mais qui perturbent la liberté académique. Et je crois que ça, évidemment, il faut y être très vigilant. Donc, les établissements se sont emparés des différents outils qui ont été mis à leur disposition, notamment la mise en place de référents en déontologie. Toute personne qui se sent empêchée dans ses travaux de recherche sait maintenant à qui s'adresser. Le Collège national de déontologie est capable de prendre ça en charge. C'est quelque chose qui a été aussi observé de manière générale, hein. Et l'Union européenne et le Conseil de l'Europe.
Mais ça existe bien, quoi. Il y a toujours, quoi. Ce n'était pas un fantasme.
Il y a un clivage. Des formes de radicalité. Moi, je pense que lorsqu'on n'est pas capable de se mettre ensemble dans le même amphithéâtre pour débattre, déjà, on a un problème. Et donc, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'on puisse continuer à débattre et qu'il n'y ait pas des arguments d'exclusion, d'autorité, des gens qui disent « si tu penses ça, je ne te parle plus ». Ça n'existe pas, ça, dans le monde universitaire.
Oui, mais c'est ça, c'est ça le wokisme, c'est un peu ça, on refuse le débat, quoi.
Il n'y a pas que le wokisme, il y a tout un tas de gens qui estiment que ceux qui ne pensent pas comme eux n'ont pas le droit de penser. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Et ça, ça ne doit pas rentrer dans l'université. C'est l'un des endroits où l'on apprend l'esprit critique. Comment est-ce qu'on peut apprendre l'esprit critique si on n'a pas plusieurs opinions qui s'expriment et qu'on n'est pas capable de comprendre comment elles se sont construites et finalement à laquelle on adhère?
Merci Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui
Merci
était l'invité ce matin de Sud Radio.
8h32, dans un instant, la revue de presse, à tout de suite.